Fréquence protestante, le Midi Magazine, Emmanuel Taïeb.
Bonjour à tous et toutes, très heureux de vous retrouver pour ce Midi Magazine consacré aux séries françaises. L'émission d'aujourd'hui s'intitule justement « Force et faiblesse des séries françaises ». Mes invités sont tous des professionnels du secteur audiovisuel. Grégoire de Maison et Charline Delépine sont scénaristes et Pierre Zimniak est assistant exécutif à The Oligarchs Productions, c'est français, et il est aussi essayiste. Il existe bien un savoir-faire français en matière de séries. Ce savoir-faire tient dans la capacité depuis longtemps de la France à produire des feuilletons. Et sans doute plus subtilement, à explorer sans en avoir l'air dans des séries policières ou sociétales des milieux et des enjeux sociaux. Que ce soit dans des adaptations de Simenon, dans Pause Café ou dans l'Instit. Ce savoir-faire français n'a pas disparu aujourd'hui et nombre de productions marquent les esprits, et s'exportent assez bien. Le renouveau est en marche. Mais il y a quelque chose de vertigineux à constater qu'au moment même où David Simon lançait The Wire et où Matthew Weiner créait Mad Men, les séries françaises populaires étaient Louis la Brocante et Joséphine Ange Gardien. La comparaison serait cruelle, ne la faisons pas. Mais mesurons simplement certains archaïsmes français, notamment l'absence d'audace, dit-on, pour produire des séries imaginative et complexe. Alors que les feuilletons français à la papa visent uniquement le grand public, Showtime et HBO s'adressent à une clientèle jeune et cultivée, à même d'apprécier l'originalité d'une écriture et d'une narration. La production sérielle française reste sur des recettes, là où les autres pays innovent et prennent des risques. Peut-on alors parler d'une crise de la fiction française? Ou y a-t-il une crise dans les manières de faire des séries? Par exemple, la position trop dominée des scénaristes, l'absence d'un showrunner à l'américaine, les hésitations des chaînes à produire des séries dont elles ne maîtrisent pas l'exploitation commerciale ensuite, l'absence de formation des apprentis cinéastes ou scénaristes aux séries, ou encore l'étanchéité des genres qui fait que les hommes de l'art ne naviguent pas facilement entre le théâtre, le cinéma et la télévision, alors même que ce serait la condition d'un esprit créatif. Les séries françaises, donc, entre force et faiblesse. Bonjour Grégoire de Maison.
Bonjour.
Grégoire de Maison, vous êtes scénariste. Il y a quelques années, vous aviez écrit pour la série de TF1 Seconde Chance. Et tout récemment, vous avez co-écrit la mini-série de TF1 La Mente avec Carole Bouquet et Fred Testo. Avec vous dans l'équipe de scénaristes Alice Chégaré-Bregnaud, Nicolas Jean et Laurent Vivier. Cette série a été un succès d'audience et son dernier épisode a réuni 4,8 millions de téléspectateurs. Bonjour Charline Delépine.
Bonjour.
Charline Delépine, vous êtes également scénariste. On vous retrouve au générique de nombreuses séries françaises, Avocats et Associés, La Commune et surtout Les Hommes de l'Ombre, série politique sur France 2 de 2012 à 2016 avec Bruno Volkovitch, Nathalie Baye et également Carole Bouquet dans les saisons 2 et 3. Vous y étiez productrice déléguée et scénariste avec Dan Franck, Frédéric Tellier et Emmanuel Dossé. Là aussi, une série marquante et à succès. Bonjour Pierre Zimniak.
Bonjour.
Vous êtes Pierre, assistant exécutif auprès des productions donc Top, T-O-P, je ne sais pas comment ça se prononce.
Top, tout simplement.
Top, oui, oui. The Oligarchs Production, voilà, qui a produit la série de Canal+, Le Bureau des Légendes, créé par Éric Rochant. Vous avez aussi signé tout récemment un ouvrage sur les séries françaises, intitulé « Exception française de Vidocq au Bureau des Légendes, 60 ans de série », c'est paru chez Vendémiaire en 2017. Alors on va commencer par vous, Grégoire de Maison, et la mini-série, donc La Mente. Est-ce que, sans dévoiler de choses qui fâchent, mais est-ce que, ou pas, est-ce que vous avez eu l'impression, en faisant La Mente, que, au fond, les conditions d'élaboration, de développement, de production étaient bonnes par rapport à des standards que vous pouviez avoir en tête avant d'attaquer?
Alors, pour ma part, moi, c'était la première fois que je travaillais sur un projet sur lequel j'étais en position de créateur. Donc, je n'avais pas vraiment de base de comparaison pour voir si ce travail s'effectuait dans des bonnes conditions. Parce qu'avant, j'avais toujours travaillé sur des séries existantes sur lesquelles je faisais des épisodes. Donc, je dirais que ça, le travail s'est fait de manière très empirique. Aussi parce que on était sur un projet qui n'était, on va dire, pas dans l'ADN de la chaîne, qui était assez atypique pour TF1. On était aussi sur un genre où on n'avait pas beaucoup de références, parce que il n'y a pas beaucoup de séries qui utilisent des éléments avec des serial killers. C'est en général un registre qui est plutôt vu comme un registre américain. Et c'est d'ailleurs un argument qu'on nous a qu'on nous a sorti au début, quand on essayait de vendre la série, on nous parlait souvent, on nous disait « c'est très bien, mais il faut faire ça aux États-Unis, parce qu'en France, on ne peut pas faire des séries comme ça ». Ce que je peux dire, c'est que j'ai, entre le moment où la série a été créée, enfin le projet a été créé, et où il a circulé, et où on a eu beaucoup de refus des productions qui trouvaient ça très intéressant, mais qui nous disaient « on ne peut pas faire ça à la télé française », et le moment où finalement on a trouvé une production qui nous signe, on peut voir que sur cette période, il y a eu, je pense, un changement dans la ligne éditoriale, dans l'état d'esprit général, et plus particulièrement dans la ligne éditoriale de TF1, qui fait que cette série a été possible. Ensuite, après, au niveau de l'organisation du travail, ça a été très, comme je disais, très empirique. Mais on a réussi malgré tout à aller au bout, même si ça a été très très long comme développement et un petit peu chaotique. Mais au final, l'important, c'est que ça s'est fait et bien fait.
On va écouter d'ailleurs le générique de la mini-série de TF1, La Mente.
Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Il voulait devenir grand. Sa maman le berçait. Tu regretteras le temps où tu étais un enfant.
Forces et faiblesses des séries françaises. Grégoire de Maison, on vous a répondu quand vous avez voulu faire La Mente que c'est pas dans la culture française, qu'il faut le faire aux États-Unis. Et puis finalement, ça se fait quand même en France. Donc ça veut dire que là, il y a une espèce d'argument un peu fallacieux des chaînes pour se débarrasser d'un projet qui finalement se fait et vient contredire l'idée que c'est pas dans la culture française.
En fait, je me retrouve dans une position un peu paradoxale, parce que sur le fond, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que les chaînes sont globalement assez frileuses face à des nouveaux projets. Et en même temps, La Mente est un peu un contre-exemple. C'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Parce que, au contraire, en étant sur un projet avec des personnages sombres, avec une thématique parfois violente, enfin une série assez lourde psychologiquement, on n'a eu aucun... Au contraire, c'est ça qui a plu à TF1, et la chaîne ne nous a jamais, ne nous a jamais... Enfin, j'allais dire censuré, mais c'est un mot trop fort. De toute façon, il n'y a jamais eu la moindre décision pour s'opposer à ce qu'on avait envie de dire. On n'a pas du tout été freiné. On a même plutôt été encouragé à aller à fond dans le registre de la série. La chaîne avait conscience qu'elle faisait une série qui s'inscrivait dans un genre et que donc du coup il fallait en adopter les codes et les épouser et y aller à fond.
Charline Delépine, sur cette frilosité des chaînes qui renvoient les projets avec des arguments effectivement un peu discutables.
Dans le cas de Grégoire, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait la première frilosité venait pas du tout de la chaîne mais des producteurs. C'est-à-dire que très souvent, quand on nous apporte des projets, on spécule sur ce que va dire la chaîne au lieu de foncer et d'essayer, parce que finalement le risque il est quand même très très limité. Et on a fini par rentrer. Alors c'est aussi parce que les chaînes pendant longtemps n'étaient pas très courageuses, mais bon, le cas de Marie Guillaumont pour TF1 est assez chouette, parce que c'est vrai qu'elle essaye de faire des choses différentes sur ce qu'on pensait qu'était l'ADN de TF1, et petit à petit ça change, et c'est bien. Mais voilà, l'autocensure, il n'y a rien de pire. Hein. Et d'ailleurs, on le voit aussi sur les auteurs qui commencent à être des auteurs qui ont de la bouteille. On ne peut pas les emmener écrire tout et n'importe quoi, parce qu'ils savent qu'ils peuvent perdre du temps pour finalement un projet qui ne se fera pas. Il n'y a rien de pire que l'autocensure.
Vous, dans le cas du développement des Hommes de l'Ombre, par exemple, même question qu'à Grégoire de Maison, c'était une série politique, donc là, on imagine tout de suite les chaînes dire « oulala, attention, alors, pas d'idéologie à la télé ».
Assez différent, parce qu'en fait, Vincent Mellet, qui était à la direction de la fiction de France Télévisions à l'époque, cherchait une série politique. Donc en fait, la proposition des Hommes de l'Ombre était une réponse à une demande de la chaîne. Donc là, le risque était quand même moindre. Ils en avaient très envie, en fait. Et on n'a eu vraiment aucune censure. Le seul problème qu'on a eu sur les Hommes de l'Ombre, c'est le temps de l'écriture et la politique qui s'est emballée dans ces 5 ans, dans l'avant-quinquennat Hollande et jusqu'à la fin du quinquennat Hollande, où la politique a tellement évolué rapidement que les scénaristes n'arrivaient pas à suivre, enfin, avaient un tout petit peu d'avance, mais pas beaucoup, et il fallait aller très très vite.
On va écouter le générique des Hommes de l'Ombre.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Emmanuel Taïeb.
Force et faiblesse des séries françaises. Grégoire de Maison, TF1 ne vous a pas du tout mis de bâton dans les roues, mais est-ce qu'il y a eu pendant le développement l'inquiétude, comme c'est un projet voilà, avec une série killer, c'est un thriller, est-ce qu'il y a eu l'inquiétude que la chaîne arrête tout d'un coup, ou que, parce que brutalement elle se dit effectivement c'est pas du tout dans notre ADN, ou est-ce qu'il y avait l'inquiétude que un simple changement de direction de la fiction annule tout?
Je rebondis sur ce que disait Charline. C'est vrai que souvent l'autocensure, elle est bizarrement plutôt du côté de la production que du côté de la chaîne. Ça veut dire, moi, je me souviens pendant l'écriture où pendant les réunions, il y avait des idées qui se faisaient jour et nous-mêmes, on se disait bon, on va peut-être pas aller aussi loin, ça risque de pas passer. On anticipait la réponse de TF1. Et au final, sur toutes les versions qui ont été envoyées à la chaîne et où on avait un petit peu des appréhensions, il n'y a jamais eu un seul retour pour nous dire « Bon, ça, vous comprenez, ça va être quand même un petit peu... C'est un petit peu... Ça ne va pas être possible. » Il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Et comme je disais tout à l'heure, au contraire, la chaîne nous a même poussé à un moment à aller beaucoup plus loin, à nous dire... Il faut, au contraire, vous lâcher plus parce que la promesse de cette série, elle ne sera tenue que si vous allez au bout des personnages et au bout de toutes vos idées.
Donc TF1 est plus audacieux que ce qu'on pouvait avoir en tête. Pierre Zimniak, la frilosité, elle est en cascade, c'est-à-dire que les scénaristes s'autocensurent en anticipant effectivement la réaction des producteurs, les producteurs s'autocensurent en anticipant la réaction de la chaîne, alors qu'en fait, peut-être que tout le monde aimerait aller dans la même direction que vient de décrire Grégoire et puis Charline, c'est-à-dire oui. Faisons enfin une série qui tape. Quoi.
Oui, et je rebondirai sur ce qui vient d'être dit sur l'autocensure. J'irai même plus loin en disant que finalement, encore aujourd'hui en France, le nombre de chaînes capables de mettre de l'argent dans des séries qui sont ambitieuses, parce que les séries, ça coûte cher, est encore assez faible. Il y a TF1, France Télévisions, France 2, France 3, Canal+, Arte a beaucoup moins d'argent, il y a M6 qui recommence à faire de la fiction, et finalement, c'est assez peu. Et aujourd'hui, quand on est producteur, quand on est scénariste, on sait très bien que quand on fait un projet et qu'on le conçoit pour TF1, on sait très bien que si TF1 dit non, il va falloir le retravailler presque entièrement pour le proposer à France Télévisions ou Canal+, qui est encore complètement différent. Voilà, donc il y a très peu de guichets de financement, et c'est encore un problème aujourd'hui, parce que les chaînes ne sont pas encore totalement en compétition entre elles d'un point de vue qualitatif. Elles ont chacune leur ligne éditoriale.
Ce qui est le cas, alors, il y a une concurrence aux États-Unis que vous décrivez dans votre livre comme, au fond, une saine concurrence entre Netflix, des plateformes, etc. Parce que là, ce sera à la chaîne qui sortira sa série phare et sa série marquante.
La chaîne ou la plateforme, comme oui. Netflix ou Amazon. Bon, après, les États-Unis, on part dans l'exemple extrême inverse, où le marché est extrêmement développé, existe depuis très 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 longtemps. Il y a les chaînes, il y a les networks, il y a les chaînes du câble, maintenant il y a les plateformes Internet. Donc oui, là, c'est l'exemple extrême inverse.
Pierre Zimniak, sur un des problèmes que vous pointez dans la fabrication des séries françaises, c'est le temps de développement très long, alors à la fois en amont de la série, on en redira un mot tout à l'heure avec Grégoire, mais aussi le temps de développement très long entre les saisons.
Tout à fait.
Oui. On est, alors là, pour le coup, on laisse passer des années. Ça a été le cas pour Les Hommes de l'Ombre. Et avec, entre-temps, soit des changements d'équipe, soit des changements de casting, soit une audience qui, finalement, s'étiole parce qu'on n'a pas réussi à créer une fidélisation.
Pour moi, le cas d'école, c'est encore plus que Les Hommes de l'Ombre, beaucoup plus, c'est Les Revenants. Les Revenants sur Canal+, saison 1 2012, automne 2012, carton public, carton critique. On parlait à l'époque, les Un Rock faisaient couverture sur la révolution des séries françaises, la renaissance des séries françaises, quelque chose comme ça. Ça s'est exporté partout. Il y a même un remake américain qui s'est fait avant la saison 2 française, pour dire à quel point on a pris du temps. La saison 2 des Revenants est arrivée 3 ans après la saison 1. Audience divisée par 2 sur Canal+.
Oui, c'est ça, ils avaient perdu tout le monde entre-temps. Et le phénomène,
on se souvenait vaguement, effectivement, du thème de la série, des Revenants, du principe, mais les personnages, l'intrigue très concrète de la série, non, on s'en souvenait pas.
Il y a un cas dans votre ouvrage, qu'il y en a sûrement d'autres, mais le cas, par exemple, d'une série qui avait plutôt bien marché, qui s'appelait David Noland. Il n'y a jamais eu de deuxième saison.
Non.
C'était sur France 2, je crois.
C'était sur France 2, oui, il me semble. Et à l'époque, il me semble même que c'est la production qui n'avait pas réussi à faire une saison 2 assez rapidement. Et la livrer assez rapidement.
Donc ils ont arrêté, ils ont abandonné. Et alors, autre cas, ouais, des changements de casting, par exemple, ou autre, Charline Delépine.
C'est-à-dire que là, il y a quand même deux choses. D'abord, beaucoup de chaînes attendent la diffusion avant de commander la suite. Donc déjà, on perd un temps infini. C'est-à-dire qu'entre le moment où c'est écrit, le moment où c'est tourné, le moment où c'est diffusé, à ce moment-là, hop, on nous donne le OK pour la suite, on a déjà perdu pratiquement 18 mois.
Ouais, en général, les productions sont obligées.
En général, les productions sont obligées
de lancer l'écriture d'une saison 2 avant d'avoir l'accord de la chaîne,
ouais.
Parce que s'ils attendent, en général, cet accord-là, il intervient une fois qu'il y a eu un espèce de débrief des audiences à l'issue de la diffusion, et donc souvent, il faut le lancer en amont. Quitte à en être de sa poche pour la production et avoir lancé une écriture qui n'aboutira
à rien. Propre, hein.
Mais voilà, les productions doivent prendre ce risque-là pour pouvoir arriver à fournir une saison 2, enfin une saison suivante, dans des délais raisonnables.
Sauf que ce risque-là, Charline Delépine, il est quand même très risqué et très coûteux.
Alors, moi, je, par rapport à l'argent et aux auteurs, c'est l'essence même, donc je crois que c'est quand même. Voyez là, la série que je suis en train de produire, le coût des auteurs n'en représente que 5%. Et comme il y a eu beaucoup de textes qui sont passés à la poubelle, finalement, c'est quand même le double de ce que ça coûte d'habitude. Et ça ne reste que 5% du montant du budget. Donc je crois que quand même, notre risque de producteur, il est tout de même là. Ou alors, il faut changer de métier si vous voulez vraiment. On parle de quoi, là? On parle de, à un moment donné, mettre quelque chose de l'ordre de 30 000 euros sur la table, à un moment, pour lancer des nouvelles idées et être un peu en amont au moment où la chaîne dira oui ou non. Bon, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas beaucoup d'argent sur le budget total d'une série qui, en général, est environ de 6 millions d'euros. En France, aujourd'hui, sur les séries un peu prestige, on est à 1 million d'euros par épisode. Donc, non. Après, l'autre problème, c'est pas toujours que la chaîne, et ça, c'est le cas des Revenants, parce que je pense que Canal avait commandé la saison 2 très très vite. C'est aussi qu'il faut qu'une série prenne sa rythmique en écriture. J'ai eu le cas avec Engrenage, quand j'ai produit la première saison d'Engrenage, on est resté pratiquement 24 mois avant d'avoir la deuxième saison prête en écriture. Et puis ensuite, Anne Landois, d'autres auteurs sont rentrés dans la boucle et ont réussi à trouver un système, une mise en route pour que ça aille plus vite.
Mais
c'est vrai que c'est souvent entre la première et la deuxième saison où c'est toujours un peu compliqué.
Ouais, parce que là, on a déjà un produit qui existe, mais il faut essayer d'être dans une continuité.
Exactement.
Ouais. Pierre Zignac, moi j'ai appris, alors j'aurais pu m'en douter, mais en lisant votre ouvrage, qu'en France, il n'y a pas d'épisode pilote. Pas exactement, en tout cas, dans le format américain où
non,
on vient.
Non, c'était tenté. Il me semble que pour Engrenage, tu me corriges si je me trompe, mais voilà, le tout début d'Engrenage, il y a eu un épisode pilote fait pour ensuite corriger les défauts éventuels et voilà, et remettre les choses en marche si ça ne marchait pas. Et c'est pour le mieux, parce que d'ailleurs, la série continue encore aujourd'hui, elle vit très bien sa vie. Non, même le CNC a proposé une aide, il me semble, entre 2008 et 2014 pour l'écriture, enfin la production de pilotes, mais ça n'a pas marché parce que les chaînes, je pense, n'ont pas tout à fait joué le jeu de la commande de pilotes.
En fait, ça aurait pu être un tournant, c'est-à-dire qu'elles auraient pu à ce moment-là le prendre à leur charge, ça, en disant on va produire un pilote, et puis si ça marche, on lance une série.
Exactement. Mais la France n'a pas cette saisonnalité des séries qui fait qu'il y aurait tous les printemps, par exemple, une commande de pilote pour une mise à l'antenne en septembre. La nouvelle série, ça n'existe pas en France, il n'y a pas de saisonnalité. toute façon.
Sur le changement de casting, par exemple, dans votre ouvrage Pierre Zimniak, vous donnez l'exemple de Clara Scheller. Alors, on change tout le monde.
Alors là, c'est l'exemple aussi extrême, puisqu'on a changé tout le monde. C'est pas juste l'acteur principal, c'est tout le monde.
Alors là, voilà. C'est un vrai problème pour la fidélisation.
C'est bien sûr, oui.
Même si tout acteur peut incarner n'importe quel personnage. Là, si on veut fidéliser un public, c'est compliqué.
Oui, c'est l'évidence, bah, bien sûr. Là, tous les personnages ont changé. Il y a eu trois ans entre les deux saisons, il me semble. Et voilà, ça reste une très bonne série, très bien écrite. Mais bien sûr, pour le public, pour la chaîne, pour, bien sûr, c'est une évidence.
On perd tout le monde en route. Charline de Lépine, est-ce que, donc on vous a commandé hein, Les Hommes de l'Ombre, est-ce que vous avez regardé d'autres séries avant? Comment on fait? On regarde à la Maison Blanche et on se dit, nous, on va entrer différemment, on va entrer par les communicants, on va pas aller dans la politique, le noyau dur, on va rentrer par une porte dérobée.
Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais vous avez raison, à la Maison Blanche a été une de nos références, bien sûr. Le fait de rentrer par les communicants, c'est parce que je venais de lire un livre de Jean Guinel et où Pierre Juillet et Marie-France Garraud étaient des gens de l'ombre comme ça. Et je trouvais que c'était intéressant de rentrer par ces personnes-là plutôt que frontalement par les politiques, qui nous permettait de prendre un peu de distance. Mais oui, alors à la Maison Blanche a été une référence, et ensuite bien sûr Borgen,
ouais.
Qui est arrivé à peu près concomitamment à la diffusion, et sur la saison 2 quand même on s'est beaucoup nourri de Borgen en disant que vraiment il faisait un super travail. Alors Borgen est une chronique, c'est un gros mot en français, enfin, par rapport aux chaînes et en général dans la série. Nous on a besoin d'être dans cet héritage du feuilleton, en hyper romanesque, avec beaucoup de rebondissements, donc on ne pourrait pas faire Borgen en France.
Il y aurait une temporalité qui serait jugée trop longue, la chaîne dirait il se passe rien, alors qu'en fait il se passe des choses, mais...
Il se passe rien, c'est ce qu'on nous dirait, que c'est beaucoup trop chronique, et que le public français ne va pas être accroché, qu'il a besoin d'être pris par la main d'une manière permanente, et voilà, qu'il faut qu'il soit pris dans une grosse machine romanesque. J'entends, parce que c'est vrai que c'est une tradition française, hein, le feuilleton 19e est basé là-dessus. Mais c'est un peu dommage qu'on ne se lance pas dans des aventures à la Borgen, oui, beaucoup plus en chronique.
Sur la manière d'écrire Grégoire de Maison, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la writing room, la salle d'écriture, qui est un endroit où plusieurs scénaristes sur une même série vont travailler ensemble, brainstormer, lancer des idées. Et il y a, dans l'idée de l'écriture américaine, l'idée qu'on va à plusieurs écrire quelque chose de très bien, parce qu'on va retenir les meilleures idées et qu'on va être en concurrence. Alors en France, là, vous avez écrit, par exemple, vous étiez quatre. Alors c'est pas la writing room, mais en même temps, il y a déjà quelque chose de l'ordre d'une écriture collective, d'une série.
Oui, alors on a écrit à quatre, mais en même temps, ça s'est fait, on a ajouté des auteurs au fur et à mesure. Moi, je dirais que la différence, surtout avec les États-Unis, dans ce qu'on peut connaître en France, c'est que il y a peut-être moins en France ce côté hiérarchisé des ateliers, où en France, il y a souvent... plus de difficultés à faire émerger un chef. Et là, on peut parler clairement de un peu la déficience de la position de showrunner en France, qui a du mal à s'installer. On arrive sur certaines séries à avoir un collectif, mais il y a peu de séries sur lesquelles il y a un showrunner qui arrive à s'installer.
Donc il faut être à plusieurs. C'était aussi votre cas, Charline de Lépine. Vous avez écrit à quatre. Ça marche aussi.
Oui. Alors,
sans showrunner.
En l'occurrence là, sur Les Hommes de l'Ombre, j'étais pas scénariste. Je suis co-créatrice de la série, mais pas scénariste. Non. Alors là, vraiment, moi, je pense qu'il y a tous les cas de figure en France. Le plus beau dans le groupe restera sans doute Plus belle la vie d'un côté et Le village français, puisque là on est vraiment clairement dans un phénomène de showrunning. Frédéric Krivine est un vrai positionnement de leader et de chef, avec plein d'auteurs qui travaillent avec lui, et il repasse derrière. Vraiment, là, il travaille à l'américaine, et on peut dire que sur le village français, ça a fonctionné. Mais c'est aussi lié à la personnalité de Frédéric Krivine. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette. C'est peut-être ça qui est finalement... pas mal, après avoir dit il faudrait qu'on ressemble aux États-Unis, qu'on travaille comme eux, je me dis que on a aussi une identité qui fait qu'un Dan Frank peut écrire la saison 1 tout seul des Hommes de l'Ombre. Bien sûr, on est là pour l'accompagner, bien sûr, on est en pure direction littéraire, etc., avec Emmanuel Dossé, mais enfin, il l'écrit tout seul. Et puis avoir des groupes où il y a 10 personnes, ou 6 comme Le Village Français, ça fonctionne aussi. Je crois que c'est un peu notre différence en France, c'est qu'on rêve de ce showrunner, mais j'ai pas l'impression qu'on s'en sorte si mal en ayant... une fois, c'est le producteur qui fait showrunner, une fois, ça va être un auteur, une fois, ça va être vraiment le réalisateur. Je pense que l'autre bon exemple, c'est le Bureau des Légendes. Je pense que tu peux nous en parler.
Oui, bien sûr. Sur le Bureau des Légendes, le showrunner est à la fois réalisateur, auteur et producteur. Donc, il cumule trois fonctions essentielles. Et voilà, c'est ce cumul qui fait que... on a une position de showrunner.
Ça existe. Il y a la Writing Room, Pierre Zimniak, ça a été à un moment, on a présenté ça comme une clé pour débloquer justement peut-être des problèmes d'écriture en France. Et puis les Français finalement ont monté une espèce de modèle hybride. Il peut y avoir un showrunner, il peut ne pas y en avoir, il peut y avoir un chef d'écriture.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de modèle unique en France. Hein, pas du tout. On est dans un phénomène où il y a des exceptions partout. Il y a des prototypes partout, en fait. C'est une économie de prototypes. Il n'y a pas d'industrialisation aujourd'hui. Il y a des très bonnes exceptions. Un Village Français, le Bureau des Légendes, de Plus Belle la Vie, qui est un saut, mais qui est dans son genre super. Voilà. Mais il n'y a pas de modèle industriel aujourd'hui unique en France, pas du tout.
Mais
on est encore
série,
en train de tâtonner, de chercher, bien sûr.
Mm-hmm. Ouais. Et alors, ce showrunner, parce qu'on en parle beaucoup, il fait quoi de manière concrète? Il assure une espèce de cohérence artistique, de cohérence d'écriture, où il apporte un univers tout fait?
Quand c'est le créateur de la série, oui, il apporte l'univers. Après, il assure le fil rouge technique, économique, financier, managérial, artistique. Enfin, c'est un boulot où on ne dort pas, quoi.
Alors vous écrivez dans votre livre qu'on est quasiment dans une espèce d'organisation militaire, effectivement. On ne dort pas, on vient travailler.
C'est les scénaristes de Plus Belle la Vie qui m'ont dit ça. Alors, Plus Belle la Vie, c'est très particulier, parce qu'entre le moment où ils écrivent un épisode et le moment où il est diffusé, il y a un mois, voire trois semaines. Enfin, c'est extrêmement court. C'était inimaginable il y a 20 ou 30 ans de faire ça. Donc oui, c'est militaire, mais ils n'ont pas le choix. Ils ajoutent, ils n'ont pas le choix. Le processus, la méthode est extrêmement normée. Et voilà, pour livrer des écrits, pour que la chaîne est valide, et pour qu'ensuite ça parte à Marseille, pour qu'ils tournent et que ça revienne, et qu'ils aient les retours.
Voilà. Il y a plusieurs équipes, même, enfin, ça tourne en parallèle.
Il y a plusieurs équipes, ouais.
Ça, c'est un vrai. On va écouter la bande-annonce de la quatrième saison, parce qu'on en a parlé justement d'un village français.
On se bat en Russie, en Nouvelle-Guinée, dans l'Atlantique, on se bat partout. Et ici, tout est si calme.
L'école n'est pas un lieu de détention tout de même.
Mais il ne s'agit pas de détention, il s'agit de transit.
On est censé faire ça?
On est censé faire ce qu'on nous demande.
Ce qui est terrible avec les Allemands, c'est que plus on se met en quatre pour leur être agréable, moins ils sont contents.
Et on est censé aller jusqu'où?
On n'a pas le choix.
Je la connais, cette chanson-là.
Je comprends pas que tu démissionnes alors que tu peux aider ces gens.
Je vois plus comment.
Tu te rends compte que cette entreprise qui porte ton nom collabore de plus en plus?
Si je découvre que tu mets en danger l'entreprise...
C'est encore mon entreprise.
Plus pour longtemps.
Je suis victime d'une erreur. Je suis mariée à un Français, je devrais pas être ici.
Il s'agit de ma femme et de ma fille!
On ne risque pas la vie de tous nos membres pour protéger un intérêt individuel.
Il y a quelque chose que je vous cache depuis plusieurs mois.
Je suis juive.
Pile ou face?
Face?
Parfois, il n'y a rien d'autre à faire qu'essayer.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Emmanuel Taïeb.
Force et faiblesse des séries françaises sur l'organisation militaire ou sur la manière dont Plus Belle la Vie est produite, par exemple, ou écrite, Grégoire Demaison, un mot?
Oui, moi j'ai travaillé beaucoup sur l'ancienne série quotidienne de TF1, et donc je connais cette organisation en atelier. Sur Plus Belle la Vie, ce qui est intéressant, c'est que ce délai très court entre l'écriture et la diffusion des épisodes a induit de manière un peu, je pense, accidentelle, un rapport de force qui est intéressant. À savoir que, du fait de ce délai, en fait, la chaîne n'a pas vraiment le temps de rebondir et de s'opposer, en fait, il faut tourner. Et donc, du coup, ça induit, en fait, une espèce de force des scénaristes. qui est que si la chaîne n'est pas contente, il n'y a pas forcément le temps de se retourner et de faire des versions différentes. Et c'est intéressant dans cette logique, parce que c'est une des rares séries où du coup les scénaristes ont, on va dire, je vais prêcher pour ma paroisse, le poids qu'ils méritent.
Et en tout cas, une grande liberté, parce que de toute façon, la chaîne prendra ce qu'on lui donne, parce qu'elle n'a pas le temps de se retourner. Alors,
évidemment qu'il y a une validation des arches en amont.
Des arches narratives.
Voilà, des arches qui vont courir sur des plusieurs semaines. Mais ensuite, dans le détail, on va dire, on est dans une organisation où il y a une semaine pour faire une deuxième ou une troisième version de dialogue, et puis ensuite, ça y est, ça passe en tournage, et il n'y a pas le temps de se retourner.
Pierre Zimniak, sur Un village français, là, on est sur un modèle qui, visiblement, marche bien, c'est-à-dire qu'on a, Charline Delépine le rappelait, un showrunner, il y a un conseiller historique important, et puis il y a
Azéma,
voilà, Azéma, et puis ça file bien, si j'ose dire, avec un succès d'audience,
oui,
et critique.
Bien sûr, et c'est super. Après, ce qu'il faudrait, c'est 5 villages français sur France Télévisions. Ça, ce serait génial.
Ou un sur chaque chaîne.
Et voilà, exactement. Après, bon, village français, malheureusement, il me semble que la case de diffusion a changé d'une saison à l'autre. Donc, il n'y avait pas une régularité tout à fait parfaite sur ça. Et ce n'est pas revenu tous les ans exactement. C'est tous les ans et demi ou quelque chose comme ça. En tout cas, bon, sur les dernières saisons, en tout cas. Donc, voilà, il y a encore des ajustements à faire pour avoir un modèle parfait, si tant est que la perfection existe en France. Mais oui, c'est pour moi Un village français et Fais pas ci, fais pas ça, qui était sur France 2, sont pour moi les deux exceptions absolues du service public dans les années 2000-2010.
Donc on arrive à le faire.
Mais ce sont encore des prototypes et des exceptions.
Ça dépend des projets aussi, c'est sûr. C'est qu'Un village français avait cette particularité, qui est d'ailleurs conceptuellement géniale, hein, c'est de suivre également le fil de l'histoire. Donc, d'une certaine manière, la dramaturgie avait une forme de mise en place évidente, puisqu'on suivait le fil de l'histoire. Donc, je pense qu'il gagnait aussi un peu de temps là-dessus, et que ça permettait, dans la réunion des auteurs et dans le travail que faisait Krivine avec les auteurs, de ne pas partir non plus dans tous les sens. Parce que ça, je ne suis pas certaine que les Français, à part dans une rigueur comme un soap, comme Plus belle la vie, je ne suis pas certaine que les Français soient capables de ce travail vraiment en groupe et de se fondre dans le groupe. Je pense que aussi on a cette tradition de l'auteur avec un grand A, et qu'il y a une nécessité de leader qui est quand même là présente. Alors elle change, hein, parce que le leader a été longtemps le réalisateur. Là, clairement, c'est plus le cas. Mais quand une série a vraiment un ADN particulier très fort, oui, je pense qu'elle doit être aussi la parole de la vision d'une personne, ce qui est aussi le cas du Bureau des Légendes.
Oui, c'est un équilibre à trouver entre l'individuel et le collectif.
Enfin,
il y a eu en France quelque chose de très particulier que vous avez mentionné, c'est effectivement cette toute-puissance de l'auteur, alors qui est liée sans doute à la politique des auteurs, telle qu'elle a été par exemple défendue par les Cahiers du cinéma, et où on disait, alors l'auteur c'était le réalisateur, qui du coup a éclipsé tous ceux qui pouvaient aussi faire un film à leur manière, le directeur de photographie, le monteur, le scénariste, etc. En France, j'ai l'impression qu'on a voulu, qu'on est resté dans la production des séries sur ça, c'est-à-dire qu'on accorde peut-être plus d'importance au réalisateur qu'au scénariste, par exemple.
On en a apporté pendant très longtemps. Aujourd'hui, ça change. Là, par exemple, la série que j'ai en tournage pour France Télévisions, le réalisateur n'a choisi personne comme technicien dans l'équipe, sauf sa monteuse. Parce qu'il venait du cinéma, il n'avait jamais fait de 6 fois 50, et voilà, ça paraissait très logique qu'on l'entoure de techniciens qui connaissent cet exercice, et il est arrivé en dernier, c'est-à-dire que les auteurs avaient travaillé quand même pendant pratiquement, en l'occurrence c'est une série qui a été très longue à écrire, pendant 4 ans avant qu'il n'arrive. Donc c'est sûr que l'ADN de la série, tous les auteurs la connaissent mieux que lui, donc on attend son talent. Et de fait, il est en train de nous faire une très belle série, mais on n'attend certainement pas une prise de pouvoir.
Donc ce que vous nous dites, c'est que finalement, les scénaristes, ça y est, alors, ils ont pris le pouvoir.
Sur certains projets, indéniablement. Ouais, moi, je pense qu'indéniablement, sur certains projets. Après, vous savez, je discutais avec Philippe Tribois il y a quelques jours, qui est un réalisateur qui a quand même fait la mise en place d'Avocats Associés, la mise en place d'Engrenage, première saison, la mise en place du Village Français. Clairement, il me disait, moi, je ne tournerai jamais avec des comédiens que je n'ai pas choisis. Donc là, on se dit que Là, comment faire ?
Oui, oui. Voilà. Ouais. Donc, il y a quand même une reprise en main. Cette question des rapports de force et du poids du réalisateur en France, Pierre Gignac.
Il y a aussi la question, le poids symbolique du cinéma dans tout ça. Vous parliez de la politique des auteurs. Oui, il est clair que la nouvelle vague dans le cinéma français a fait énormément de bien au cinéma français, évidemment, mais a fait beaucoup de mal à la conception qu'on a pu se faire des rôles respectifs du réalisateur et du scénariste à la télévision. Pourquoi ? Parce que il me semble que même François Truffaut disait le rôle du scénariste, c'est certainement pas d'être sur le plateau. Alors qu'en fait, aujourd'hui, bah, si, on se rend compte que pour qu'une scène soit tournée bien et en cohérence avec ce que le scénariste avait en tête, il est intéressant que le scénariste qui l'a écrite dans l'atelier d'écriture soit présent sur le plateau au moment où cette scène est tournée dans la série. Voilà, c'est un des exemples possibles. Après, il y a eu aussi les années 80, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand TF1 a commencé, et France Télévisions aussi, à mettre en place les collections de téléfilms, en fait, que ce soit Navarro, Julesco, etc., qui étaient des formats de 90 minutes, et qui, pour le coup, voilà, n'enclenchaient pas de mécanique industrielle, et dans lesquelles le rôle du réalisateur était encore très très important par rapport au rôle du réalisateur dans une série de 52 minutes. Voilà.
Là, c'était quoi ? C'est le modèle du film, c'est-à-dire quand ça dure 90 minutes, on se dit c'est presque un long métrage.
C'est ça, on a fait le modèle du film à la télévision. On n'a pas su créer un modèle spécifique à la télévision française.
Et ça vient vraiment directement au moment de la création de la RTF. Très simplement, De Gaulle a récupéré le journal télévisé, toute l'info, et a donné... je le mets entre guillemets évidemment parce que c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque, mais aux réalisateurs communistes tout ce qui était ce qu'on appelait les dramatiques à l'époque. Et ensuite on récupère cela et cette tradition là sur les 90 minutes en France. Donc c'est une tradition de longue date et qui était en scission très claire entre le cinéma et la télévision, mais c'est vrai que ces réalisateurs-là faisaient un peu des faux films pour la télé.
Oui, les réalisateurs ont eu un pouvoir très très fort, très rapidement à la télévision française dès les années 50, hein, dès la RTF. Mm. Par contre, moi j'ajouterais une petite nuance, c'est que pour le coup, dans les années 50-60, en termes de format, on n'était pas aux 90 minutes, pas encore en tout cas. Il y avait à l'époque une vraie diversité de formats. Il y a des 13 minutes, des 26 minutes, des 50 minutes, enfin plein de choses. Et il faut se replonger vraiment dans les séries de la RTF et de l'ERTF, parce que
oui,
c'est fascinant.
Oui, les Jeannick Aimée et compagnie, sûr, voilà, c'est des 13 minutes.
Il y a tout plein, Thierry Lafront, les séries historiques, il y avait plein de genres aussi. Il y avait des comédies, il y avait même une série de science-fiction, il y avait du fantastique, il y avait Belphégor, enfin, il y avait plein de choses. C'est fascinant, il faut vraiment se replonger 50 ans derrière.
C'est le savoir-faire dont on parlait tout à l'heure. Le 90 minutes, Pierre Gignac, vous n'êtes vraiment pas fan, parce que
moi, personnellement,
vous dites
non.
Que ça plombe un peu, c'est-à-dire que c'est trop long par rapport au rythme d'une scène de 52 minutes.
J'ai rien contre 90 minutes en soi, c'est juste que c'est tellement un format qui n'est pas industrialisable et qui donc ne se prête pas à des séries qui reviendraient année après année, en tout cas de manière régulière, que si, on peut faire 90 minutes, des mini-séries de, je sais pas, 4, 5 épisodes 90 minutes, ce serait déjà un peu beaucoup. Mais dans ce cas-là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut les événementialiser, il faut en faire des vrais événements, enfin, comme les Américains le font. Quand HBO fait des unitaires ou deux téléfilms d'une heure et demie ou de deux heures, mais c'est le grand événement de l'année sur la chaîne. Voilà, donc il faut qu'on fasse la même chose en France, si on veut faire ça.
On le vend comme un film. Grégoire Demaison, est-ce que vous avez pu aller sur le tournage de La Mante, ou finalement ça a été... plus cloisonné que ce que vous auriez voulu.
J'y suis allé avec grand plaisir et j'y étais invité. Après, on se retrouve vite. Enfin, moi personnellement, en tout cas, je suis très content d'y assister, mais je me retrouve vite dans la position où je suis sur un lieu où il y a que des gens qui travaillent et moi, j'ai rien à y faire. Et donc, au bout d'un moment, on a vite l'impression d'être dans les pattes des gens et de les embêter plutôt qu'autre chose. Donc, l'idéal, évidemment, ça serait d'y être pour avoir quelque chose à y faire. Là, sur cette série, il n'y a pas eu ce fonctionnement avec... quelqu'un qui représenterait l'écriture et qui serait présent au moment du tournage pour assurer cette espèce de continuité. Cette continuité, elle a été prise elle a été assurée plutôt par le réalisateur qui a réécrit les dialogues et qui donc a assuré cette continuité-là.
Charline Delépine, vous avez les deux casquettes, donc quand vous allez sur un plateau, c'est aussi comme productrice exécutive, et donc là, vous pouvez intervenir, contrairement à Grégoire qui ne pouvait pas du tout réécrire ses dialogues ou autre.
Je pense que je suis de plus en plus interventionniste, mais c'est parce que le fait de travailler de plus en plus en amont et de porter ses textes pendant si longtemps, c'est-à-dire que on fait pas une série comme ça aujourd'hui. C'est compliqué, c'est long, l'écriture est longue, la présentation aux chaînes est longue. Chaque série devient tellement un objet à part, donc on peut pas le laisser partir. J'adorerais qu'il y ait plus de showrunners en France, en l'occurrence sur les projets dont je m'occupe. Eh ben, je m'en occupe moi-même jusqu'au bout, donc je vais tous les jours sur le plateau. Mais il me semble qu'il est nécessaire que quelqu'un garde la mémoire. Voilà. Alors je m'en fiche un peu de savoir si c'est un auteur, si c'est moi, si c'est un directeur littéraire qui devient showrunner par la suite. Il faut que ce soit quelqu'un avec la légitimité, évidemment. Ce qui est certain, c'est que pour qu'il n'y ait pas de contresens, pour que le réalisateur emmène bien les comédiens dans le bon sens, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit garant du projet depuis le début.
Vous intervenez du coup, si vous réécrivez des choses au tournage, vous vous dites ça marche pas, ce dialogue à l'écrit ça allait, mais à l'oral ça sonne un peu faux,
en l'occurrence c'est Sylvain Sada qui écrit les dialogues, donc il est un peu sur téléphone et je l'appelle si vraiment il y a un problème. Mais comme c'est le projet dont je parle là, on a eu beaucoup de temps de préparation, donc on a fait beaucoup de lectures avec les comédiens, avec le réalisateur, tout le monde réuni, les scénaristes et le dialoguiste particulièrement. Donc il reste encore des petites choses, mais normalement on était passé un peu par-dessus les écueils de texte. Ce qui est aussi un problème, c'est que comme on a ce problème de rapidité d'écriture, là c'est parce que c'est une mini-série, hein, mais comme on a ce problème de rapidité d'écriture, comme on veut quand même aller assez vite, on veut que la deuxième saison arrive assez vite, donc on écourte très souvent le temps de préparation de cette fameuse saison 2. Et du coup, on ne travaille pas assez sur les lectures avec les comédiens. Et c'est peut-être aussi pour ça que souvent les saisons 2 sont un peu plus faibles.
Oui, et ça peut se ressentir. Aux États-Unis, Pierre Zimniak, il y a des showrunners scénaristes stars desquels, je pense à Aaron Sorkin, Damon Lindelof, autour desquels, dès qu'il y a leur nom, on peut monter la série presque autour d'eux, et eux la montent en fait.
Tout à fait, mais les scénaristes n'ont pas du tout le même statut aux États-Unis qu'en France, de toute façon. Et puis, le rôle de l'écriture n'est pas le même. Dès l'université, si vous inscrivez en université aux États-Unis, il y a des cours d'écriture, de dramaturgie, ce qu'en France, on a mis du temps à développer. C'est quand même très bizarre pour un pays qui a une histoire littéraire aussi riche que la nôtre. Et oui, aux États-Unis, il y a aussi la pratique des spec scripts. C'est-à-dire, quand vous êtes étudiant, quand vous êtes apprenti scénariste, vous pouvez écrire à un producteur de série en lui proposant un scénario de la série que le producteur est en train de tourner. Scénario qui ne sera sans doute évidemment jamais tourné, voilà, bien sûr. Mais en tout cas, ça montre votre motivation et votre envie de travailler pour cette série. Et ensuite, vous pouvez, si le producteur aime bien votre script, entrer en tant que stagiaire dans la salle d'écriture, dans l'atelier d'écriture. Si vous êtes bon, vous devenez junior. Si vous êtes encore meilleur, vous devenez, etc., etc., auteur senior, etc., etc.
Le spec script, c'est une manière de pour le scénariste ou l'apprenti scénariste de se couler dans le moule de la série, de dire j'ai compris l'esprit, donc je suis capable d'écrire ça. C'est une force aussi.
C'est une vraie force. Il y a un vrai parcours qui va de l'apprentissage de l'écriture, de la dramaturgie, jusqu'à l'écriture effective dans une série. C'est normé, c'est normal.
On parlait de
ce qu'ils font à la Fémis, là, dans le spécial. La section spéciale série qui est à la Fémis, qui est un master, ils font ça, ils prennent des exemples de séries avec les producteurs ou les directeurs littéraires de la série, donc de Candice Renoir, etc., qui suivent pour mettre la main à la pâte, vraiment se confrontant à l'écriture d'un épisode. Alors on a volé ça aux Américains, je pense que ça marche bien. Mais là, je parle de 12 étudiants, entre 10 et 12 étudiants par an.
Oui, donc une toute petite équipe, mais ça y est, ça commence, hein, Grégoire de Maison. On a des gens qui sont formés dans les écoles de cinéma à l'écriture sérielle, ce qui n'était pas le cas il y a peu de temps encore.
Oui, on a d'une part une formation donc maintenant à la Fémis consacrée aux séries, et aussi le conservatoire d'écriture, le CEA, qui fournissent les deux formations, je pense, principales, et qui, je trouve, changent un peu la physionomie du paysage parmi les auteurs, parce qu'aujourd'hui les jeunes auteurs sont beaucoup mieux formés techniquement, connaissent bien les séries, ils ont une vraie culture de ça, parce que du coup ils ont grandi avec les séries, ils ont grandi avec les Sopranos, Et je trouve que ça donne une optique beaucoup plus professionnelle, c'est-à-dire on a plus des gens qui arrivent forcément d'univers variés, mais des gens qui ont été formés vraiment à ce métier spécifique. Et ça apporte, je pense, un vrai plus pour les ateliers, parce que c'est des gens qui sont habitués à travailler en groupe, qui n'ont en général pas d'ego d'auteur déplacé.
Pierre Zimniak, c'est une des propositions que vous faites dans votre ouvrage pour hausser le niveau de jeu, comme on dit en tennis, des scénaristes, c'est de les former. Ça y est, là aussi, hein, c'est ce que disait Grégoire de Maison et Charline de Lépine, on va avoir des gens qui ont biberonné aux séries américaines, voire aux séries françaises, et donc leur niveau d'écriture.
Oui, bien sûr, et c'est tant mieux qu'on a cité donc la FEMIS, le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, c'est très bien que ça existe, et c'est tant mieux. Maintenant, il faut de quoi pouvoir accueillir ces jeunes scénaristes dans des ateliers. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui suffisamment d'ateliers en France pour les accueillir? J'en suis pas certain. Je sais même que non, en fait. Donc voilà, après, il faut qu'il y ait des débouchés. C'est comme pour toute formation. Si vous n'avez pas de débouchés, bah, vous aurez des scénaristes qui savent écrire beaucoup mieux que par le passé, mais qui n'auront pas de quoi travailler.
Puis il y a un autre problème, quand même, mais là, je ne sais pas comment on le résout, parce que ça fait très longtemps que je tourne autour du pot. Comment emmener ces jeunes scénaristes sur les plateaux pour qu'ils soient également formés au tournage? Voilà. C'est vraiment important, parce que je pense qu'il y a des répercussions dans l'écriture. Quand on voit combien de temps on peut perdre pour la mise en place d'une séquence, ben, ça aide à l'écrire d'une autre façon sur le prochain script. Comment trouver cette place que tu n'avais pas réussi à trouver, Grégoire, mais c'est le problème pour tous les auteurs, pour qu'ils soient plus aguerris au plateau et que ça les aide dans l'écriture.
Et qu'ils ne fassent pas qu'écrire dans un coin sans on se dire à quoi ça peut ressembler dans un tournage. Ça peut être très compliqué.
Mais c'est ce vers quoi il faut aller, il me semble. Parce que beaucoup plus qu'au cinéma, il me semble, les séries, par leur aspect très industriel, mais c'est pas péjoratif, par le fait qu'elles doivent revenir très régulièrement, parce que les rythmes de production, de tournage sont beaucoup plus rapides, il faut décloisonner les choses entre la réalisation, enfin l'aspect technique en tout cas du tournage, l'écriture, la production, l'aspect managérial, financier. Il faut un peu décloisonner tout ça. C'est pas aussi figé que dans le cinéma.
Et repenser des synergies, en tout cas dire sur ce type de format, tout le monde pourrait travailler ensemble, même de manière
à la condition d'être bien formé et de savoir travailler ensemble.
Une des solutions aussi, Pierre Zimniak, que vous évoquez dans votre ouvrage au problème ou à la crise de la fiction française, ce serait que les chaînes aient davantage de pouvoir, c'est-à-dire qu'au fond elles se transforment qu'elles aient en tout cas un département de création et qu'elles puissent contrôler commercialement la production, puis la diffusion des séries.
En fait, tout ça, faut revenir sur l'histoire des chaînes françaises et de leur rapport à la production indépendante. Dans les années, enfin, au temps de la télévision d'État, de l'ORTF, la production était en très large partie dépendante des chaînes, enfin, c'était produit en interne. Ensuite, à partir des années 70 et surtout des années 80, il y a eu une explosion de la production indépendante pour des raisons réglementaires et autres. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, là, beaucoup, beaucoup de séries sont produites de manière indépendante. C'est pas une spécificité française, c'est juste qu'en France, on a beaucoup, beaucoup de producteurs indépendants. C'est une force. Je pense que la production indépendante, c'est indispensable. Par contre, les chaînes, oui, effectivement, se sont plaints de ne pas pouvoir produire beaucoup de séries de manière dépendante. Mais par exemple, France Télévisions et TF1 ont réussi à obtenir des pourcentages de production indépendante. Récemment.
Donc, c'est-à-dire qu'elle met des billes très clairement dans des séries.
Pour contrôler de A à Z, y compris sur l'exploitation commerciale.
Parce que c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'actuellement, quand une chaîne vend une série, elle touche peu ou pas d'argent? Comment ça se passe?
Jusqu'il y a encore quelques mois, parce que la loi a quand même un peu changé. Donc aujourd'hui, les chaînes sont coproductrices avec nous. Mais jusqu'il y a quelques mois, c'était simplement un achat de droits. C'est-à-dire que les chaînes nous prenaient la série pour 48 mois de droits et 3 diffusions. Alors, c'est vrai que je reconnais, alors je pense que s'il y a des membres de l'USPA qui m'écoutent, je vais recevoir des lettres d'insultes, mais il faut reconnaître que c'était tout de même un peu exagéré. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à une chaîne, je prends l'exemple de la chaîne publique, vous ne pouvez pas demander à France Télévisions d'investir 700 000 euros par épisode sur une série de 6 ou 8 fois 50 minutes et en même temps n'avoir les droits que pour 48 mois. C'est un peu exagéré. Là, ça leur met c'est aussi une relation un peu différente et je la trouve plutôt saine.
Non, c'est sûr. Après, il me semblait qu'il y avait un exemple assez canonique. C'était un gars et une fille qui était diffusé à l'origine sur France 2.
France 2,
et ouais. Qui s'est retrouvé sur M6 quelques années plus tard. Alors que pour l'esprit du grand public, c'était quand même une série associée à France 2. Eh ben non, c'est une série qui s'est retrouvée sur M6.
Ouais, là, ça peut complètement circuler. Dernière question très rapidement. Pierre Zemniak, la limite de l'exportation, par exemple, de séries, c'est Versailles, une série qui se passe en France mais tournée en anglais.
Voilà, c'est encore un autre modèle. Le sujet des coproductions internationales, c'est une autre voie possible. C'est-à-dire que voilà, on produit avec d'autres pays. Versailles, c'est franco-canadien. C'est tourné en anglais pour que les exportations soient maximales, en anglais britannique, hein, je précise. Voilà. Après, est-ce que ce sont encore des séries françaises? Je sais pas. Ça se discute. Enfin, c'est Borgia, Versailles, et aussi d'autres séries. Il y en a eu sur TF1, il me semble. Joe, c'était une série tournée avec Jean Reno, mais en anglais. Donc, vous voyez, on peut tout à fait. Ça peut être sur n'importe quelle chaîne, mais c'est un autre modèle. Modèle. Et est-ce que les scénaristes français. Est-ce que ça sert vraiment à l'industrie française? Est-ce que ça forme les scénaristes français? J'en suis pas certain. Quand on fait venir des showrunners américains, bah oui, c'est bien, mais est-ce que ça serait pas aussi bien de faire monter des scénaristes français? Voilà, donc c'est un équilibre à trouver là aussi.
Merci beaucoup, on va rester sur ces paroles. Je vous remercie pour votre présence, Grégoire Demaison, Charline Delépine, Pierre Zemniak. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pierre Zemniak, c'est « Exception française de Vidocq au bureau des légendes, 60 ans de série ». C'est paru chez Vendémiaire. Cette émission sera en podcast très rapidement sur le site de Fréquence Protestante. Merci à Arnaud, à la technique. À très bientôt.